Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous fêtons aujourd'hui la fête de notre Seigneur Christ Roi. Je voudrais avec vous, pour ne pas trop interrompre le cours des sermons sur les sacrements, vous montrer comment les sacrements sont liés à la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, le sacrement de baptême est le sacrement par lequel le roi reconquiert son royaume qu'un usurpateur avait prétendu lui ravir, lui prendre. Cet usurpateur, c'est le démon qui avait commencé à établir, il avait fait même plus que commencer, il avait largement établi son royaume, royaume de ténèbres, royaume de haine. S'il y a une chose qui caractérise le royaume du démon, c'est la haine. Et le royaume de Dieu, c'est l'amour. L'amour de Dieu en premier et l'amour des hommes entre eux, pour Dieu, à cause de Dieu. Et donc Satan avait déjà largement établi son royaume, il avait même établi ses complices, il avait fait ce qu'on appelle des fausses religions et qui sont tout sauf des religions, des fausses croyances. Il avait établi des faux prêtres, des idoles, des faux cultes. Et d'un seul coup, notre Seigneur renverse tout cela par sa passion. Au moment où le démon croyait avoir la victoire, il est au contraire écrasé. Notre Seigneur a ainsi gagné les mérites. Il a ainsi gagné le droit, si l'on peut parler ainsi. Il a commencé la restauration de son royaume. Encore faut-il que les sujets lui soient ramenés un à un. Notre Seigneur n'a jamais cessé d'être le roi, même lorsque Satan a prétendu lui prendre son royaume. Par la passion, il commence la restauration, il fait même plus que cela, il l'impose, il en impose le principe. Il rappelle ce principe qu'il est roi, et c'est dans sa passion d'ailleurs qu'il proclame le plus clairement sa royauté auprès de Pilate. Encore faut-il que les sujets lui soient ramenés, qu'ils lui soient ramenés dans la foi, dans la charité, dans l'amour, dans la soumission. Et c'est ce que fait le baptême. Le baptême est extraordinaire parce que c'est vraiment la royauté, non seulement la royauté de puissance, mais la royauté d'amour, la royauté gratuite du roi qui sauve les révoltés, non pas en leur faisant grâce. Quand quelqu'un est condamné à mort, si le roi lui fait grâce, le roi ne change pas les dispositions de l'intéressé. Il espère que l'intéressé sera reconnaissant et du coup se convertira. Tandis que notre Seigneur, lui, change nos dispositions et d'ennemis que nous étions, nous devenons amis de Dieu. Nous entrons dans l'intimité de Dieu. La royauté de notre Seigneur est une royauté d'un roi ami de ses sujets. Les conséquences du baptême, pour nous, c'est une grande reconnaissance d'abord, une grande fidélité ensuite au roi qui nous a sauvés. Le deuxième sacrement, je vous l'ai dit, c'est le sacrement de la confirmation qui fait les chrétiens achevés, c'est-à-dire ceux qui se préoccupent de la royauté de notre Seigneur. Par le baptême, on vit dans cette royauté. on est soumis au roi. Par la confirmation, on étend les limites du royaume, on travaille à la royauté de notre Seigneur. Je vous ai expliqué tout cela dans les sermons sur la confirmation, je n'y reviendrai pas. Le but n'est pas d'y revenir, mais peut-être de faire une petite synthèse. Nous sommes préoccupés, voyez, de ce bien, de ce bien qui est vraiment la grande préoccupation de Dieu. Le royaume de Jésus, le Fils du Père. Voilà la grande préoccupation du Père. Et la préoccupation du Saint-Esprit, d'ailleurs. Parce que c'est un royaume d'amour, un royaume de vie. Et cette grande préoccupation devient la nôtre. Activement, nous y travaillons. Et pour cela, je vous l'ai dit, nous devenons soldats du Christ et de l'Église. Et puis, cette œuvre est évidemment réalisée dans le Saint-Esprit. La royauté de notre Seigneur s'établit dans le Saint-Esprit. Lorsque je serai remonté au ciel, je vous enverrai mon esprit. Le troisième sacrement, c'est l'Eucharistie. Nous ne l'avons pas encore étudié, mais c'est justement une bonne occasion de comprendre le sens profond, le sens essentiel de la Sainte Eucharistie. L'Eucharistie établit le royaume dans le cœur de chacun d'entre nous par une union très intime avec Dieu. C'est la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit à travers la communion au corps, au sang, à l'âme et à la divinité de Jésus-Christ. Mais bien, chers frères, faites très attention, il y a une manière intéressée de concevoir le sacrement de l'Eucharistie, comme tous les sacrements d'ailleurs, c'est d'y voir l'aide que Dieu nous apporte pour notre vie à nous. C'est-à-dire que nous commençons par nous voir nous-mêmes avec nos ambitions, si l'on peut dire, ici-bas, qui peuvent être des ambitions relativement chrétiennes, mais qui sont des ambitions personnelles. Et parce que ces ambitions respectent la loi de Dieu, alors nous proclamons que nous avons droit à l'aide de Dieu, et nous voyons les sacrements comme ce secours qui nous est nécessaire pour notre vie personnelle. Je ne dis pas que le Christ ne nous secourt pas, mais ce n'est pas la première chose. La première chose, il établit sa royauté. Et ensuite, effectivement, il donne des secours. Le sacrement de l'Eucharistie, qui est la messe, hein, c'est la même chose, nous l'expliquerons. L'Eucharistie et la messe, ça ne fait qu'un sacrement. C'est deux dénominations pour une réalité strictement unique. La communion et la participation à l'Eucharistie, l'Eucharistie, c'est la messe. Et la communion n'est pas l'Eucharistie. La communion, c'est la participation à l'Eucharistie-messe ou à la messe eucharistique, c'est-à-dire au sacrifice de notre Seigneur, c'est-à-dire à sa royauté. Nous entrons dans la royauté, alors qui est une royauté qui est encore dans ce monde, mais qui n'est déjà plus de ce monde. Nous régnons par l'Eucharistie, nous régnons avec Jésus-Christ dans le royaume de son Père, même si, ici-bas, nous sommes encore présents dans un royaume qui est aussi le royaume de Jésus-Christ, mais que Satan cherche à lui prendre, continue à chercher à lui prendre. Parce que Satan ne s'est jamais avoué vaincu. Jamais. Le royaume établi par l'Eucharistie est un royaume d'humilité, c'est-à-dire de grandeur. Cela va vous paraître surprenant que je dise cela, un royaume de grandeur, puisque c'est l'humilité. L'humilité, c'est la soumission pleine et entière à Dieu. L'humilité, c'est de laisser Dieu agir. L'humilité, c'est vraiment ce qui exalte la grandeur de Dieu. Et l'Eucharistie est un sacrement d'humilité dans lequel nous délaissons ce monde, nous ne sommes pas unis à ce monde. C'est le sacrement par lequel nous renions le monde. Et nous nous mettons en pleine humilité pour recevoir notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le quatrième sacrement, c'est celui de pénitence, que les pères appellent la seconde planche de salut, qui est un complément du baptême ou une réitération, si vous voulez, de l'aspect du baptême qui remet les péchés. Normalement, un bon chrétien devrait ne jamais plus pécher quand il a été à ce point uni à Dieu, mais Dieu connaît bien notre faiblesse humaine et nous a donné cette seconde planche de salut. C'est encore un sacrement qui nous tourne vers le Christ roi parce que ce sacrement met en valeur l'amour gratuit de Dieu, la miséricorde bienveillante de Dieu. Alors que nous avons été sauvés, on pourrait déjà dire deux fois, enfin la première, Dieu nous a aimés au début en Adam et Ève, et puis nous avons perdu son royaume par le péché originel, puis il nous le rend par les sacrements, le baptême, et puis je vous l'ai dit, par l'Eucharistie. Et vous avez ceux qui, hélas, perdent ce royaume, et Dieu, gratuitement, totalement gratuitement, le rend de nouveau. Bien sûr, il faut demander pardon, mais c'est lui qui inspire de demander pardon. Ne croyez pas, mes bien chers frères, qu'une œuvre si grande que de retourner à Dieu depuis la profondeur de l'abîme du péché soit une œuvre strictement personnelle dont nous soyons capables tout seuls. Non. C'est une œuvre de Dieu qui vient nous chercher pour nous rendre à son amitié et à sa royauté. Vous avez le sacrement de l'extrême-onction, qui est le sacrement des mourants et non pas des malades. Là encore, on voit bien la perversion, comment la théologie moderne a perverti les sacrements. Sacrement des malades, c'est un petit peu l'aide que Dieu nous apporte. Oui, c'est souffrir les souffrances de cette vie en union avec notre Seigneur sur la croix, mais ça, c'est le baptême qui nous le donne. Ça, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie nous unit à notre Seigneur sur la croix. Non, le sacrement de l'extrême-onction, c'est le sacrement de l'entrée au ciel dans lequel nous partagerons la gloire du Christ au roi, définitivement, parfaitement, sans aucune limite, sans aucun retour en arrière, sans aucune crainte, en étant totalement en dehors de la portée du démon. Voilà pourquoi il est très important de maintenir que le sacrement de l'extrême-onction est le sacrement des mourants et non pas le sacrement des malades. Et puis vous avez enfin deux sacrements qui sont très tournés vers le Christ roi, c'est l'ordre et le mariage. L'ordre, évidemment, je relisais il n'y a pas longtemps un texte de Monseigneur Lefebvre, qui m'a donné d'ailleurs un petit peu l'idée de ce sermon. Il écrit à Monsieur l'abbé Tam, qui à l'époque était dans la fraternité Saint-Pédis, et qu'il encourage à faire son travail d'analyse, de dénonciation des erreurs des papes et de Rome. Et Monseigneur, après cela, s'élève aux considérations de la restauration de la chrétienté, donc de la royauté de notre Seigneur. Le restaurateur de la chrétienté, dit Monseigneur, c'est le prêtre par l'offrande du vrai sacrifice, par la collation des vrais sacrements, par l'enseignement du vrai catéchisme, par son rôle de pasteur vigilant pour le salut des âmes. C'est auprès des vrais prêtres fidèles que les chrétiens doivent se regrouper et organiser toute la vie chrétienne. Tout esprit de méfiance envers les prêtres qui méritent la confiance diminue la solidité et la fermeté de la résistance contre les destructeurs de la foi. Le restaurateur de la chrétienté, disait donc Monseigneur, c'est le prêtre. Mais pourquoi le prêtre? Pas par sa personne. Ça, c'est trop facile. Il y aurait un risque de croire que plus on fait de prêtres et plus la chrétienté est restaurée. C'est pas vrai, vous avez plein de prêtres modernes qui la démolissent. Non, c'est le prêtre d'abord par l'offrande du vrai sacrifice. Et non pas d'un repas comme les modernes. Le vrai sacrifice parce que c'est le sommet. Le sacrement de l'Eucharistie est le sommet des sept sacrements. Tous les autres sont tournés vers lui. Ensuite, par la collation des vrais sacrements, parce que justement, il faut préparer les âmes à monter au calvaire pour ressusciter avec notre Seigneur dans l'Eucharistie. Ensuite, par l'enseignement du vrai catéchisme, parce qu'il n'y a pas de sacrement sans la foi, et par son rôle de pasteur vigilant, ça c'est la dernière fonction du prêtre, de veiller au bon grain et de veiller à ce que les fidèles respectent ce qu'ils ont reçu de lui dans les sacrements. Le prêtre est vraiment le collaborateur du Christ roi pour l'établissement de son royaume. Et enfin, le sacrement du mariage, qui est un très grand sacrement, qui concerne les fidèles plongés dans les tracas du monde. Et justement, saint Thomas pose une question lorsqu'il étudie le mariage. Il dit vraiment, est-ce que c'est légitime de se plonger à ce point dans les tracas du monde, dans les tracas de l'éducation, dans les dangers du mariage, dans les dangers même de la sensualité? Est-ce que c'est légitime? Et il répond oui, à cause de la grandeur de la mission. Il faut que cette mission soit grande, justement, pour légitimer les tracas que les époux endurent. Et quelle est cette mission? Il le dit, il le redit en étudiant le mariage, former les adorateurs du vrai Dieu. La cour du Christ roi. Les époux sont les maîtres des novices de ce grand monastère qu'est la chrétienté. Ils dépendent directement du Père Abbé, notre Seigneur Jésus-Christ, et ils forment les adorateurs du Christ roi, ils forment les fidèles du Christ roi, ils leur enseignent non seulement à être fidèles, mais ils continuent leur œuvre en veillant à ce qu'ils reçoivent la confirmation, puis la première communion, puis d'autres communions. Leur œuvre n'est pas achevée tant que, justement, cette éducation n'a pas été complète, avec tous les sacrements qui permettent d'entrer dans la vie en véritables adultes soucieux du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sacrement de mariage est grand, vous voyez. Bien sûr, il est moins noble que le sacerdoce, mais la question n'est pas là. Le sacrement de mariage est lié au baptême parce qu'il fait les enfants de Dieu, parce qu'il accompagne les enfants de Dieu dans la réception des sacrements, c'est-à-dire dans le service du Christ roi. Les enfants ne sont lâchés dans la vie que lorsqu'ils sont capables d'être des bons collaborateurs du Christ roi sans risque de tomber dans les filets du démon. Vous allez me dire que je remue le couteau dans la plaie pour tous ceux d'entre vous qui, justement, n'ont pas les sacrements. Eh bien non, je fais le contraire. Je les rassure. Les sacrements qu'ils ont reçus, nous verrons cela plus en détail, par exemple, pour l'Eucharistie. Mais il y a le sacrement lui-même, il y a les signes intermédiaires et il y a la réalité. La réalité, c'est de nous faire entrer dans le royaume du Christ, de nous faire vivre dans le royaume du Christ. Et, dans certains cas, le Christ peut nous priver des sacrements, mais jamais il ne nous privera de son royaume. Bien plus, tout mal est pour un bien, et donc, s'il prive des sacrements les signes extérieurs sensibles, il ne prive jamais de ce que les sacrements signifient, et donc il ne prive jamais les fidèles de la participation aux réalités qui sont données par les sacrements. Demandez à la Sainte Vierge qu'elle vous accompagne comme une mère dans tout ce cheminement vers le Christ roi avec lequel elle triomphe déjà puisqu'elle a déjà été couronnée reine, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.